Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team pour une émission spéciale où avec Maxime Dupuy, on va débriefer la liste des 25 de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. Comment ça va, Maxime ?
Ça va, Martin, et toi ? T'as bien aimé cette liste ? Elle est à ton goût ? 24, 25, ça te va ? T'avais un chiffre ?
Elle est à mon goût, dans la mesure où il y a William Saliba dans la liste. Moi, ça me va. Voilà.
Bah écoute, ouais, elle est plutôt pas mal. Alors, on parlera évidemment de ceux qui ne sont pas là, mais globalement...
Alors, on va diviser l'émission en trois parties. Ouais, on va démarrer par ça. On débutera sur ce que nous dit cette liste sur le potentiel 11 face à l'Australie, le premier match des Bleus au Qatar. Ensuite, on parlera évidemment du cas Giroud. Et on terminera par les absents. Il y en a quand même quelques-uns, même s'il n'y a pas de... de surprise magistrale, mais il y a quand même quelques absents.
Ah, il y a une petite surprise. Et j'étais étonné, Didier Deschamps, d'habitude, il ne fait pas trop dans le sentiment qu'il a dit « je sais que j'ai fait des malheureux ». Donc, je pense que ça a été compliqué sûrement à trancher sur un ou deux cas sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Mais cette liste, c'est peut-être une des listes qui donne le plus d'informations sur le 11 qu'on ait vu ces dernières années. Parce qu'au bout d'une minute, en gros, quand on a vu déjà les défenseurs apparaître, on avait compris... À partir du moment où Jonathan Klaus n'était pas là, qu'il y avait 8 centraux, alors ça peut paraître paradoxal, vous allez me dire, il y a 8 centraux, donc ça voudrait dire qu'on joue à plus de centraux. Bah non, tout simplement, parce qu'à partir du moment où Klaus n'était pas là, il n'y avait plus de défenseur droit, sinon, Kingsley Coman éventuellement, oui. Sur une défense à 3,
sur un piston,
le piston droit. Donc on s'est douté tout de suite que Pavard et Koundé étaient là, et pourquoi il y avait autant de défenseurs centraux, c'était lié évidemment à la forme actuelle de Varane et Kimpembe, qui a priori seront aptes, mais on sent que Deschamps a voulu se couvrir en prenant autant de défenseurs centraux. Donc déjà, on a compris tout de suite, et Didier Deschamps, en conférence de presse, il n'a pas hésité à dire « non, mais on revient à 4 ».
Exactement, on revient à 4, donc ça c'est un des premiers enseignements. Donc pour aborder le premier sujet de cette émission, effectivement, qu'est-ce que ça nous dit sur le 11 ? Bah, qui débutera face à l'Australie, et bah, que la France jouera avec 4 défenseurs. On n'est pas certain sur les 3 milieux de terrain, mais a priori, ça devrait être, semble-t-il, un 4-3-3. C'est une petite révolution, puisque la France, depuis la fin de l'Euro, quasiment, joue à 5 derrière, ou alors à 3 centraux plus 2 pistons. Donc c'est une petite révolution. On pensait que ce système installé, Deschamps a beaucoup travaillé, a beaucoup insisté, a essayé de nombreux joueurs dans le couloir droit, dans le couloir gauche ou dans cette défense à 3 pour finalement revenir à 4. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que quand la compétition est là, ça se resserre, qu'il a vu, qu'il a constaté, mais comme nous tous, hein, il suffisait de regarder les matchs, que l'équipe de France était très exposée dans ce système-là, donc qu'il n'y aura pas de Kingsley Coman piston droit en équipe de France dans un grand tournoi. Ça dit tout simplement, Maxime, que les choses se resserrent.
Ça se resserre. Et ce qui est marrant, c'est de faire le parcours de cette défense à 3. On l'avait vu un peu avant l'Euro. Il avait testé notamment en Albanie sur un match qui était sans enjeu. Bon, voilà, ni plus ni moins. Il y a eu pendant la Suisse, pendant l'Euro, mais là, c'était plus, c'est-à-dire de l'ordre de l'accident parce que il ne savait plus trop quoi faire. Beaucoup de blessés et l'idée de jouer face à un adversaire en miroir qui jouait comme ça. Et puis après, il s'est dit, bon, je reste sur mon idée de bien faire jouer mon attaque avec Griezmann, Mbappé et Benzema. Et la meilleure solution, c'est peut-être cette défense à 3. Il l'a testé pour une première fois face à la Finlande en septembre 2021. Ça s'est super bien passé grâce à Théo Hernandez. Et ce qui est paradoxal, c'est ce soir-là que Mbappé n'était pas là. Mais ça avait vraiment bien fonctionné. Il s'est dit, on va y aller. Il gagne le Final Four comme ça de la Ligue des Nations.
En étant quand même ballotté.
En étant ballotté. Et surtout, moi, alors, c'est pas le moment qui m'a mis la puce à l'oreille, mais commencer à m'inquiéter autant que le Final Four, à la rigueur, tu sois ballotté face à l'Espagne, face à la Belgique, tu peux l'accepter. Mais tu arrives en match amical à Marseille face à la Côte d'Ivoire, et là, tu te prends des vagues de 1 contre 1, Et je garde en tête cette phrase de Deschamps à la fin du match qui dit « Non, non, mais moi j'accepte ça, je préfère qu'on défende à 3 plutôt qu'à 5. On est en situation de déséquilibre, mais ça nous permet de voir ce qu'on a dans le ventre en quelque sorte et d'accepter ça. » Déjà, Didier Deschamps qui dit ça, accepter le déséquilibre, il y avait un truc qui n'allait pas. Il a dit ça sans doute en espérant que ça irait mieux, mais le problème, il y a eu le mois de juin avec la blessure de Varane, repasser à 4 derrière parce que personne n'était capable d'assumer ça. Et puis après, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus assez de temps et que ça ne fonctionnerait pas parce qu'il y avait aussi, sans doute, moi j'en étais persuadé le début, avec notamment Coman, un problème sur le piston droit.
Oui, donc c'est un an de travail finalement presque pour rien, en tout cas au niveau du système. Et qu'est-ce que ça nous dit aussi? Donc défense à 4, que Benjamin Pavard va être l'arrière droit titulaire de l'équipe de France, comme à la Coupe du Monde en Russie, alors que Didier Deschamps, au mois de mars encore, disait que Pavard était un défenseur axial désormais. Alors, ça a pas duré bien longtemps.
Oui, mais t'as vu ce qu'il a dit. Oui, il retombe toujours sur ses pattes. Ouais. C'est-à-dire que quand notre confrère lui a rappelé ce qu'il avait dit sur Pavard, qui était défenseur axial désormais, il a dit dans une défense à 3. Je ne sais plus s'il l'avait précisé à l'époque, mais bon, on va lui donner le bénéfice du doute, même si là, il retombe sur ses pattes, clairement. C'est du Deschamps.
Donc, Benjamin Pavard, arrière droit, sa doublure. Et c'est l'un des grands perdants de ce passage de 3 défenseurs centraux à 2. Bah c'est Jules Koundé qui va perdre sa place puisque Varane va automatiquement, s'il est apte, débuter face à l'Australie. Donc Koundé devient non plus titulaire dans une défense à 3, mais la doublure à droite de Benjamin Pavard. Quand on se souvient des prestations de Jules Koundé à droite en équipe de France, bah y a quoi se faire un petit peu de soucis. Et finalement, ses ailes vont poser problème parce que à droite, on n'a donc pas de défenseur droit de métier. Et à gauche, on n'en a qu'un. C'est Théo Hernandez, puisque ni Digne ni Ferland Mendy ne sont là. Donc, qui est la doublure de Théo Hernandez dont on peut espérer, estimer ou envisager au moins qu'il débute face à l'Australie? Bah, c'est son frère, Lucas, qui lui devrait démarrer dans l'axe. Bref, tout change. Tout change, même si on a une défense finalement qui disposera de 3 champions du monde. Ouais. Pavard, Varane, Lucas Hernandez, parce que moi, je les vois démarrer comme ça, avec Théo.
C'est peut-être le seul secteur de jeu qui ressemble à 2018 vraiment. On verra après sur l'organisation, mais c'est vrai que...
Et parce qu'au milieu, en revanche...
Ouais, c'est pas la même chose. Théo Hernandez a cet avantage par rapport à Jonathan Clauss. Alors déjà, d'avoir montré plus de choses. Clauss, il y a évidemment le système qui était son principal atout, mais qui a fini par le tuer à partir du moment où on a décidé de le retirer. Il y avait aussi Clauss, voilà, qui n'était pas forcément le plus convaincant des défenseurs, et c'est aussi ça qui a coincé. Mais Théo Hernandez, l'avantage, c'est qu'il peut jouer à 3 ou à 4. Il est arrière-gauche, ça peut le faire. Et comme tu l'as dit, au pire, il y a Lucas Hernandez qui, pour le coup, a montré 2-3 trucs aussi à ce poste-là. Donc, je ne suis pas tellement inquiet de ce côté-là. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien, mais on en a parlé, ça ne sera sûrement pas possible, mais celui que je voudrais voir dans l'axe avec Varane, c'est évidemment Saliba, parce que Saliba est sur un niveau de forme trop important. Je trouve que pour rester la simple doublure, c'est déjà pas mal, de Varane. Et on peut penser que si Varane est là, bah Varane sera axial droit et à gauche, ce sera ou Kimpembe, enfin surtout Hernandez avant, et ou Kimpembe. Mais que faire de Varane? Et je trouve que c'est Saliba. C'est dommage, mais a priori, on va quand même, comme tu l'as dit, vers une défense 2018.
Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'estime, c'est que les deux meilleurs défenseurs centraux actuels de l'équipe de France, ce sont, et sur ce début de saison, ce sont Varane et Saliba, mais ils occupent le même poste. Donc c'est compliqué. Au milieu, en revanche, voilà, c'est plus ouvert. Deschamps a choisi, si je ne dis pas de bêtises, 6 milieux de terrain. Ouais. Le milieu devrait s'articuler autour de 3 joueurs. Tchouaméni et Rabiot, c'est une évidence. Sans doute Tchouaméni en sentinelle devant la défense avec Rabiot. Et un autre. Alors, ce qui est paradoxal aussi dans ce passage à 3 milieux, c'est que c'est finalement le secteur le plus inexpérimenté, là où il y a le plus d'interrogations. Et pourtant, on passe de 2 à 3 milieux, alors même qu'il n'y a ni Pogba ni Kanté. Donc voilà. Alors il y a 2 solutions. Soit une promotion express pour sans doute Fofana, puisque pour Guendouzi, Verretou ou Kamavinga, qui eux devraient démarrer la compétition sur le banc. Soit, et ça a été abordé dans la conférence de presse, pourquoi pas descendre Antoine Griezmann d'un cran. Et je crois que Maxime, c'est une idée qui te plaît bien.
Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle me plaît bien, parce que je préfère voir Griezmann un peu plus haut, mais en tout cas, elle est pas stupide. Parce qu'on connaît Antoine Griezmann, Didier Deschamps a rappelé combien il travaillait défensivement, enfin il n'y a pas besoin de le rappeler, mais combien aussi des fois il redescendait bien trop bas par rapport à son poste, qu'il se donnait sans compter. Griezmann prend le France-Allemagne de 2021 à l'Euro, Dans la possession du ballon, on ne peut pas dire que ce soit un gros match de sa part, mais en revanche, dans le travail défensif, dans l'abnégation.
Le don de soi, comme toi, Maxime, dans cette émission.
Exactement. Voilà. Non, mais moi, on va pas se cacher, j'aime beaucoup Antoine Griezmann.
Ah bon ?
Ça se voit sans doute un peu. Et je trouve que ce ne serait pas stupide, mais je pense qu'on n'ira quand même pas vers ça. Et moi, si je devais choisir, j'organiserais mon milieu autour de trois hommes qui sont Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni
et Youssouf Fofana.
Youssouf Fofana, voilà.
Ce qui serait très très risqué quand même de démarrer une compétition
là-dessus. Alors, mais je pense que
trois hommes qui n'ont jamais disputé de Coupe du Monde.
Ouais.
Alors, avec un Rabiot qui joue à la Juve, qui a de l'expérience, un Tchouaméni qui joue au Real, qui est très bon, mais qui n'a jamais fait de grande compétition internationale puisqu'il est arrivé en équipe de France au mois de septembre dernier. Et un Youssouf Fofana qui a deux sélections, qui a découvert les Bleus il y a un mois.
Mais le problème, c'est quoi que tu fasses, hormis si tu mets Griezmann dans l'entrejeu, tu es dans cette situation-là. Ouais. Et j'essaie de me rappeler, la dernière fois qu'on a eu un milieu de terrain aussi inexpérimenté, je ne trouve pas. Ouais. Simplement parce que même l'Euro 96, où on avait raté la Coupe du Monde, il y avait des joueurs qui avaient joué 92. C'est un grand saut dans l'inconnu. Didier Deschamps en a parlé.
Après, on a été champion du monde avec deux latéraux,
oui.
Lucas Hernandez et Benjamin Pavard qui n'avaient aucune expérience aussi. Donc, ça peut le faire.
Ouais, d'ailleurs, entre parenthèses, si jamais l'équipe de France est championne du monde là, après cette année d'expérimentation, ça prouvera vraiment que la Coupe du Monde, c'est un esprit commando d'un mois et que l'année qui est avant ne sert pas à grand-chose, tout simplement. Mais c'est vrai que... ce serait quand même un sacré exploit. Et Didier Deschamps, en revanche, il a dit moi, j'ai quand même confiance en eux. Voilà, il a compris que, évidemment, on dit que les matchs gagnent aussi au milieu de terrain. Peut-être que Tchouaméni est un immense milieu de terrain. Il est très bon, peut-être qu'il va se révéler, mais il y aura besoin de ça.
Il faudra qu'il le soit pour qu'on soit champion du monde.
Je pense que pour qu'on soit champion du monde, il faut qu'il y ait un des milieux de terrain qui soit dans les 5 meilleurs joueurs du mondial, à peu près.
Ouais. Bon courage. Ouais. Et on termine avec l'animation offensive parce que on se souvient que Didier Deschamps était passé à 3 derrière d'abord, et la première raison qu'il invoquait toujours, c'était pour mettre les 3 devant dans les meilleures conditions. À partir du moment où tu passes à 4 derrière, sans doute va-t-il falloir encore une fois sacrifier quelqu'un devant. A priori, on devrait démarrer la compétition avec Griezmann, Mbappé, Giroud, évidemment Benzema. Benzema, Mbappé, c'est acté. Quid d'Antoine Griezmann ? Est-ce qu'il démarre à droite dans une position qui ne lui convient pas ? Il faut se souvenir du début de l'Euro. Et à chaque fois où il a démarré là, ça ne lui convient pas. Mbappé dans une position de deuxième pointe à gauche, finalement un peu comme au PSG, ça pour le coup, ça lui conviendrait très bien pour tourner en pivot autour de Karim Benzema. Mais c'est vraiment la situation d'Antoine Griezmann qui interroge. Là encore, il y a plusieurs solutions. Soit jouer en losange, c'est-à-dire mettre Griezmann à la pointe du milieu de terrain. Mais du coup, tu t'abandonnes un petit peu les ailes. Ça, c'est très compliqué. Ça demandera beaucoup de travail à Pavard et Théo Hernandez. Ou alors, le descendre d'un cran, comme on a dit tout à l'heure. Dernière solution. Le mettre sur le banc et faire rentrer à droite un vrai ailier type Kingsley Coman ou plus sûrement Ousmane Dembélé. Peut-être que s'il y a une interrogation à avoir, c'est celle-ci.
Ouais, Griezmann se plaint rarement. La seule fois où il s'est plaint à demi-mot, c'était, il me semble, après la Hongrie pendant l'Euro 2021, où en conf de presse, il dit « Bah oui, moi je préfère me rapprocher de l'axe, c'est plus simple. Voilà. » Il était à droite, ça se passait moyennement. Didier Deschamps avait fini par le mettre dans l'axe, mais ça ne s'était pas mieux passé. Mais là, c'était encore une autre histoire. C'est vrai qu'il a, comme toujours, la tête un peu de celui qu'on va un peu sacrifier a priori, parce que la doublette Mbappé-Benzema, évidemment. D'ailleurs, il faut le dire, on parle de trio, mais au fil des mois, c'est devenu une doublette.
Duo, ouais, voilà, tout à fait.
Après, il y a l'autre solution, parce que tant qu'à revenir à 2018, on peut, pourquoi pas, se dire d'avoir un milieu de terrain Tchouaméni-Fofana, avec Rabiot dans le rôle de Matuidi. Griezmann, oui. Pourquoi pas en 10.
Ouais, mais qui à droite ?
Ah ben voilà, ça peut être à quelqu'un d'autre pour une fois de faire les efforts et il s'appelle Kylian Mbappé. Voilà.
Mais impossible.
Ça me paraît aussi impossible. Mais Didier Deschamps, ce qui a été intéressant en revanche dans sa conf tout à l'heure, parce que Didier Deschamps était très volubile.
Ouais,
il disait tout. Il a balancé sur la défense, on va jouer à 4. Il aurait pu jouer sur le mystère, etc. Même si, encore une fois, pas besoin d'être grand clair pour deviner. Mais sur l'attaque, en revanche, il a dit, mais ça, je vais leur parler. Parce qu'il a dit qu'il avait déjà parlé aux deux joueurs qui joueraient côté droit, c'est-à-dire Pavard et Koundé, même s'il n'a pas cité les noms, il n'y a pas besoin d'avoir, encore une fois, d'être grand clair pour deviner. Devant, il a dit, mais je vais leur parler. Donc, est-ce qu'on peut imaginer Didier Deschamps qui disait, Kylian Mbappé, écoute Kylian, pour le bien de l'équipe, il faudrait que tu te mettes à droite.
Réponse.
Non.
Non.
Mais cela dit, voilà, bon, encore une fois, mais cette tentation.
Si y en a un qui est sacrifié, ce sera Griezmann, ou alors en losange. Mais moi, je ne vois pas l'équipe de France démarrer avec Griezmann à droite. Enfin, ça me paraît impossible. Et c'est pour ça que j'imagine plus facilement, presque, la titularisation d'un Dembélé qui est quand même bouillant. Ce 4-3-3, en tout cas, il redonne du crédit assez clair et assez net à Dembélé, mais aussi à Coman, à ses ailiers qui étaient un peu oubliés dans le 3-5-2. Coman a été obligé pour avoir du temps de jeu de jouer piston. Là, ça leur redonne du crédit et ça en enlève mécaniquement à Antoine Griezmann.
Ouais, mais il a un gros défaut quand même, ce système, c'est que pour défendre... T'as au moins deux joueurs qui vont pas faire beaucoup d'efforts. Et je pense que c'est au moins un de trop pour Didier Deschamps, voire deux de trop. Parce qu'il y a ce que Griezmann apporte avec le ballon, mais il y a ce qu'il apporte aussi sans le ballon. Vu le rétropédalage du 3-5-2, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, j'ai un doute quand même. Et sortir Griezmann maintenant, à ce moment-là de sa saison et peut-être de son état de forme, ce serait assez paradoxal. On verra face à l'Australie. L'Australie qui avait été, il y a 4 ans quand même, le terreau d'un test avec Dembélé, Griezmann et Mbappé. Souvenez-vous, puisque Giroud qui n'a pas eu de lendemain. Est-ce que Didier Deschamps va retester quelque chose face au même adversaire 4 ans après ? Tolisso au milieu de terrain, oui, tout à fait. Je pense pas. Je pense qu'il va rester sur 4-3-3 avec le Griezmann qui sera un peu sacrifié, entre guillemets.
Il y en a un qui ne débutera pas face à l'Australie. C'est quasiment une certitude et ça posait d'ailleurs pendant longtemps un problème à Didier Deschamps. Ça n'est plus un problème, c'est Olivier Giroud donc qui est dans la liste pour le Qatar. Olivier Giroud, pourquoi, comment Deschamps a changé d'avis? Lui qui nous disait depuis un an qu'il ne voyait pas Olivier Giroud faire un mois de compétition sur le banc dans l'ombre de Karim Benzema. Je rappelle, et c'est factuel, que depuis l'Euro, chaque fois que Karim Benzema était dans une liste, Olivier Giroud n'y était pas. Et que chaque fois qu'Olivier Giroud a réapparu, c'est-à-dire en mars et en septembre, c'est parce que Karim Benzema était forfait. Là, sur le gong, les deux sont donc dans la liste. J'ai deux questions, Maxime. Pourquoi Didier Deschamps ? Alors déjà, première question, est-ce que ça t'étonne ? Et la deuxième, pourquoi, selon toi, Didier Deschamps a changé son fusil d'épaule ?
Alors, est-ce que ça m'étonne ? Alors, je vais revenir en arrière. Août 2021, l'interview de Didier Deschamps à nos confrères de l'équipe.
Qui charge Giroud.
C'est terminé. Et puis il revient. Et on a ces discussions-là, parce qu'évidemment, comme on suit l'équipe de France, on en parlait à chaque fois. En mars, à Lille, je me souviens, après le deuxième match des Bleus contre l'Afrique du Sud. Pour moi, il ne peut pas ne pas l'appeler. Voilà. Mais il ne peut pas ne pas l'appeler déjà en juin.
Oui. Il l'appelle
juin,
pas.
Il ne l'appelle pas. Donc là, on repart sur le doute. Et puis, il le rappelle en septembre. Honnêtement, en septembre, je pense que pour moi, je ne sais pas si la bascule est là pour Deschamps, mais moi, ma bascule, elle est là. C'est-à-dire que, non, mais humainement, ce n'est pas possible. Il ne peut pas lui faire ça deux fois, le rappeler, jouer avec lui. Moi, je pense, ma théorie, c'est que Didier Deschamps avait une idée à peu près préconçue dans sa tête, sans doute de l'emmener. Mais il n'a pas voulu lui donner ce blanc-seing trop rapidement parce que le problème de Giroud, ce n'est pas le terrain, encore une fois. C'était son acceptation de son statut. Comme il l'a dit, c'est difficile de se contenter de peu quand on a eu beaucoup, quand on est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France. Moi, je pense que c'est une manière de le tester, de le laisser sous pression. En disant, tu viens, montre ce que tu sais faire sur le terrain et à côté. Ne viens pas, montre aussi comment tu vas le vivre. Et on te ramène là. Donc, il a joué les montagnes russes avec lui. Et je pense que le dernier rassemblement, avec aussi, parce que maintenant, tout tourne aussi autour de lui, l'adoubement de Mbappé par Giroud a fait aussi beaucoup pour lui. Voilà. Mais ça ne m'étonne pas qu'il soit là. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, ce soir, on se faisait la réflexion, c'est que finalement, c'est un non-événement avec ce qui s'est passé avec les défenseurs centraux, etc. On a fini par oublier qu'il était là, alors que finalement, ce n'était pas forcément gagné, même si je pense que Didier Deschamps avait ça en tête depuis un certain temps.
Pour moi, tout est dans la phrase « En un an, beaucoup de choses ont changé ». Voilà, ce qu'a dit Didier Deschamps, c'est qu'en un an, beaucoup de choses ont changé. Ce qui est clair dans l'esprit d'Olivier Giroud, c'est qu'aujourd'hui, il est la doublure de Karim Benzema. Ça ne l'était pas au moment de l'Euro, parce que mettez-vous à sa place. Il a vu débarquer Karim Benzema Ils n'étaient pas au courant. Ça a été un choc pour tout le monde. Et en premier pour lui. Il est deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il doit donc affronter la, affronter la concurrence de Karim Benzema, parce que dès qu'il arrive en équipe de France, il était automatiquement numéro 1, Karim Benzema. Et donc Giroud s'est retrouvé sur le banc du jour au lendemain. Un an plus tard, c'est beaucoup plus facile d'accepter ce statut de doublure. D'abord parce que c'est Benzema, qu'il est Ballon d'Or, que c'est donc le meilleur attaquant du monde. Tu n'es pas doublure de Randal Kolo Muani, même s'il est très bon, mais ça aurait été beaucoup plus difficile à accepter pour Olivier Giroud. Et un an est passé. Et donc, je pense que, aussi, il y a eu ces prises de parole dans la presse, je suis prêt à accepter ce rôle et tout ça. Je pense qu'il a digéré. Et donc, que c'est beaucoup plus facile pour lui et que c'est ce qu'a senti Deschamps au fil de l'année. Après, ce que je ne m'explique pas et ce que je ne m'expliquerai jamais, et Deschamps peut me donner toutes les explications qu'il veut, c'est pourquoi Olivier Giroud n'était pas là au rassemblement du mois de juin.
Mais non, mais je pense que c'est une manière de le garder sous pression.
Moi, je ne comprends pas.
Je pense que tu fais, tu souffles.
Oui, mais
le show.
Si tu veux tester et si tu veux mais effectivement vérifier de toi-même qu'il est prêt à accepter un statut de doublure, donne-lui un statut de doublure et n'attends pas la Coupe du Monde. Parce que dernière chose, Maxime, si ça se passe mal au Qatar, si Olivier Giroud pète un plomb d'une façon ou d'une autre, s'il nous refait une petite interview comme il avait fait à nos confrères de la chaîne L'Équipe avant le tournoi. Bah Didier Deschamps, il pourra s'en mordre les doigts. Mais au fond, il n'avait jamais testé Giroud en doublure dans un rassemblement.
Ouais, moi, j'étais le premier à dire que le mois de juin, c'était le vrai rassemblement pour le tester parce que c'était un rassemblement à 4 matchs et que ça ressemblait un peu à une compétition. Sauf que c'est vrai et en même temps, c'est pas vrai. Alors, je ne l'aurais pas dit à l'époque, mais c'est que ce n'est pas vraiment les conditions d'une compétition. En plus, il s'est passé de manière bizarre. Je pense qu'il a été difficile pour Giroud et ce là où on a peut-être manqué un peu de, pas nous, mais le haut niveau, c'est aussi, c'est pas là pour faire des sentiments, mais comme tu l'as dit, il voit Benzema arriver sur le gong, sur la liste, lui il marque but sur but sur but sur but, il est champion du monde, et puis dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il voit, je crois que c'est Mbappé qui tweet quelque chose avec Benzema, donc c'est acquis même dans les joueurs, tout le monde est content de le voir. Et lui, il dit, bon, bah, moi, sympa, voilà. Et ce qui est sympa, justement, aujourd'hui, c'est que bah, le fameux pivot gang et Mbappé aiment bien jouer avec Giroud parce que, justement, il est utile à ça. Donc, je pense qu'il y a eu ça, que c'était compliqué. Et que d'être là ou pas là, ça a donné des gages à Deschamps en disant, en gros, il a vu que le joueur se tenait à carreau, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Donc, il s'est dit, on va y aller. Et puis.
Il y a une dernière chose, quand même, que je veux dire.
Il n'y a pas de plan B.
Voilà. Il y a une dernière chose, c'est que Deschamps a beau dire, c'est pas le terrain, c'est pas les buts, etc.
Personne.
Sauf que. Giroud est d'une régularité exceptionnelle en équipe de France, qu'il est chaud bouillant au Milan AC depuis le début de saison et qu'il n'y a personne d'autre derrière. Donc à un moment aussi, Didier Deschamps, il se rend à l'évidence. Et ça, quoi qu'en dise Didier Deschamps, c'est quand même la raison numéro une.
Ouais, et puis faut rappeler que Giroud avait marqué en 2022, pardon, autant de buts que Ben Yedder sur toute sa carrière internationale.
3 buts en 4 matchs.
Donc à un moment, il faut voilà. Et encore une fois. C'est global à cette liste-là. Je pense que Deschamps a été rattrapé. Il aime pas, mais c'est pourtant vrai, c'est une qualité par son pragmatisme, c'est-à-dire le à trois derrière. Ça ne marche pas. Je vais prendre.
Il est pragmatique Deschamps.
Un tout petit peu. je vais mettre aussi parce que tout à l'heure quand on disait pour le milieu, pour la défense 8 centraux, ça nous permet de voir qu'il allait rejouer à 4 derrière. C'est aussi le milieu terrain qui était gonflé. À partir du moment où il y a 6 membres, il a doublé tous les postes. On peut imaginer qu'il part pour jouer à 3. Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Mais c'est une bonne conclusion, Max.
C'est une bonne conclusion.
C'est très bien. Allez, on va terminer avec, parce qu'il y en a quand même, les grands absents de la liste. Quel est le plus grand absent de la liste de Didier Deschamps pour le Qatar parmi les 25? La liste s'est allongée jusqu'à 25 noms. Mais il y a quand même des joueurs qui ne sont pas là. Maxime, je crois qu'on va être d'accord. Mais si tu ne devais en retenir qu'un, quel serait-il? Alors, et pour quelle raison?
J'aurais envie d'en retenir deux.
Mais j'allais prendre le deuxième et le mec me prend les deux.
Non, je sais pas si c'est le même le deuxième, non?
Bah moi c'est Digne et Klose, mais.
Ah bah oui, bah, c'est le même. Bon bah je vais... Bon bah allez, c'est parti. Je commence par Klose. Bah Klose parce que voilà, c'est déjà Klose qu'il y a derrière Klose, c'est la belle histoire d'un joueur qui passe professionnel tardivement, qui se retrouve international à 30 ans, ce qui est une rareté, qui fait son premier match à Marseille, il me semble, contre la Côte d'Ivoire.
Ça se passe bien.
Qui se passe pas mal. Le deuxième match, dans des conditions particulières, à Lille, alors qu'il est Lensois à l'époque, il gère. Et puis, il y a ce mois de juin où il est peu utilisé, où on commence à comprendre que, bon, il y a peut-être un décalage, mais qu'il y a ce 3-5-2 qui fait qu'il sera la solution numéro 1. Voilà. Je pense que Il l'a dit, Didier Deschamps, il fait des malheureux. Évidemment, quand on ne va pas au Mondial, quand on ne va pas à l'Euro, c'est triste parce qu'on rate quelque chose. La chance d'une vie, parfois, parce que Klose, à 30 ans, ça va être compliqué d'en jouer une autre. Voilà. Moi, c'est plus de la compassion parce que voilà, pour tout ce qu'il y a derrière, le joueur est dans la perte de sa vie. Il arrive à un niveau auquel il imaginait peut-être jamais arriver. Et puis, il est là tout le temps. Et puis, le rêve d'une vie lui passe sous le nez au dernier moment. C'est assez dur. Et c'est surtout, moi, le côté humain que je retiens là. Parce qu'encore une fois, il était utile dans ce 3-5-2. Il ne l'était plus à 4 derrière.
Ça, c'est dur.
Et c'est dur, voilà.
Moi, c'est Lucas Digne parce que c'est dur pour lui aussi. Pourquoi ? Déjà, il revenait fort avec son club. Mais aussi, chaque fois qu'il était appelé en équipe de France, il faisait le taf. Et même un peu plus que ça. En début de carrière internationale, il était plus irrégulier. Là, il avait atteint vraiment une forme de plénitude en équipe de France. Et en plus, il a déjà raté la Coupe du Monde 2018. Donc, il rate deux Coupes du Monde. C'est très dur pour lui. Et Théo Hernandez n'a pas de backup. Si ce n'est son frère, qui n'est pas un vrai latéral gauche. Donc, il y avait de la place pour Lucas Digne. Donc, je trouve ça très, très dur pour lui. J'ai beaucoup aimé, et c'est une petite parenthèse, de père de famille d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé sa réaction sur les réseaux sociaux où il montre des vidéos de ses gamins qui sont heureux que leur papa reste avec lui pendant la Coupe du Monde. J'ai trouvé ça original. Mais voilà, ça m'a fait de la peine pour un joueur, un soldat vraiment de Deschamps, de tout le mandat de Deschamps, puisqu'il était là déjà au Brésil. Et je trouve ça...
Je crois que sa première sélection, c'est mars 2014 comme Griezmann.
Ouais.
Voilà. Et après, il part jouer à Coupe du Monde. En fait, Digne, on a l'impression que c'est l'homme de l'entre-deux. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de compète, il est très bien. Autant, moi, j'avais des doutes au début sur sa gestion de carrière. Voilà. Bon, les clubs étaient fantastiques, mais ça ne jouait pas forcément toujours. Et puis, on s'est rendu compte qu'en équipe de France, il faisait le job, qu'il était plutôt bon. Ce week-end, le coup franc, je me suis dit, bon, allez, peut-être que c'est un signe. Puis finalement, voilà, ce qui est cruel pour lui, autant, c'est deux joueurs complètement différents. Un qui est plus rompu au professionnalisme, qui est presque, j'allais dire, programmé pour être à très haut niveau par rapport à Klose. Mais n'empêche qu'il y a la même cruauté, c'est-à-dire rester en dehors de la liste. C'est vrai que lui, c'est dur. Il y en a un autre aussi, parce que lui, a priori, il ressemble au futur numéro 1 dans les buts. C'est évidemment Mike Maignan.
Mais pour d'autres raisons.
Qui se blesse. Mmh. Alors, Didier Deschamps a dit quelque chose d'étonnant avec l'histoire de Je ne voyais pas trop où il voulait en venir, comme s'il y avait une forme de blessure psychologique au moment où il aurait pu jouer. Ça demandera clarification, mais je mets aussi à la place du joueur. J'ai lu un papier très intéressant chez nos confrères anglais de The Athletic qui prouvait par A plus B avec un physiologiste qui n'est pas forcément plus de blessés avant cette Coupe du Monde qu'avant une Coupe du Monde estivale. N'empêche qu'il y a le côté, le coup près direct qui tombe.
C'est peut-être pas fini, c'est ça qui est.
Et voilà, il reste un week-end et je voudrais pas être. J'aimerais bien quand même être appelé pour jouer une Coupe du Monde et avoir à jouer ce week-end. Parce que ça va être vraiment, vraiment très particulier. Et le pire, c'est dans ces conditions-là, si vous vous retenez, c'est là où vous avez une chance de vous blesser.
On en a d'autres, des absents. On parlait de Lucas Digne, il y a Ferland Mendy aussi, latéral gauche quand même du Real Madrid, qui n'est pas là. Mais ses prestations en bleu, très franchement, n'avaient convaincu personne. Et je pense qu'il le paye aujourd'hui. Mais aussi en attaque, mine de rien, avec un Moussa Diaby. Il était déjà pas là en septembre, me semble-t-il. Donc, on commençait
Il y a Randal Kolo Muani qui est arrivé.
Voilà, Randal Kolo Muani. Mais ça faisait quand même un an qu'il était là, l'ancien Parisien. Et Wissam Ben Yedder, qui a été la doublure d'Olivier Giroud pendant longtemps, puis de Karim Benzema, puisque Olivier Giroud n'était plus là quand Karim Benzema était là, et qui finalement se retrouve un peu le bec dans l'eau. Mais beaucoup trop neutre, mais un peu comme Diaby, beaucoup trop neutre quand Didier Deschamps a fait appel à lui. À un moment, il y a une sanction, c'est-à-dire quand le plus haut niveau du football mondial, tu n'arrives pas à exprimer tes qualités comme tu peux le faire en club, à un moment, le coup près tombe.
Et c'est aussi la différence avec un Lucas Digne qui, on le répète, quand il joue en équipe de France, c'est plutôt bon. Voilà, il fait le job. Wissam Ben Yedder, il a eu sa chance plusieurs fois, plus qu'une fois, et à chaque fois, c'était très, très, très neutre. Donc voilà, à un moment, Ben Yedder, Giroud, on peut comprendre que Didier Deschamps soit retourné vers le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus.
Et après, on redescend sur des joueurs comme Boubacar Camara, comme Tanguy Ndombele, mais qui étaient quand même dans un second cercle, Wesley Fofana aussi, les défenseurs centraux. Mais on est quand même loin, ou Mukiele, qui a aussi été appelé. Mais là, c'est des joueurs qui, s'ils sont dans une liste très large des 55... c'était un peu juste pour les 20.
Ouais, à la rigueur, Camara, là où il peut avoir du regret, évidemment, c'est la fatalité. Ouais, et qu'il se blesse parce que finalement, en juin, Il n'est pas ridicule, c'est un peu comme Konaté. On les voit arriver. Bon, bah c'est... alors il y avait le Maras, mais c'est pas si mauvais. Et on se dit que ça demande à être vu. Bah, manque de peau, il se blesse. Il fait sa course contre la montre pour revenir, mais c'est trop tard. Voilà, parce que bah, Didier Deschamps, il... encore une fois, en plus, le milieu, c'est déjà peu expérimenté. Si en plus, il rajoute des joueurs qui ne sont pas certains d'être aptes, c'est pas jouable et c'était trop risqué.
Voilà pour le débrief de cette liste des 25 de Didier Deschamps. Maxime, on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro.
Pour parler de la liste.
Sans doute. Merci à Sébastien qui a veillé très tard.
Je crois qu'il a vieilli.
Elle a pas vieilli. Sébastien, il reste jeune. C'est le plus jeune d'entre nous. Ouais. C'est le plus vieux, mais c'est le plus jeune. Voilà, c'est comme ça.
Non, c'est pas le plus vieux.
C'est pas le plus vieux.
Ah non, je crois que c'est moi.
Ah ouais.
Il me semble.
C'est vrai que c'est difficile d'être plus
combien
vieux.
T'es à combien, Seb? 32? Moi, je suis à 33.
Ouais, 1933. Merci donc à Sébastien qui a veillé. Et puis on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao.
Salut.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.